Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors jusqu'à présent, après les Françaises quasiment les premières à s'intéresser et s'engager dans le cinéma, nous avons eu quelque mal à quitter les Américaines, fort nombreuses, dans tous les secteurs cinématographiques ce début du XXe siècle. Alors quitte à revenir plus tard aux États-Unis, nous allons voyager et déjà revenir chez nous, dans notre beau pays de France, pour y découvrir une actrice doublée d'une réalisatrice, au joli nom de scène, puisqu'elle se faisait appeler Musidora. Or, Musidora est le nom que Jeanne Roc s'est choisi après la lecture de Fortunio, le roman de Théophile Gautier, qui relate l'histoire d'un jeune, beau et mystérieux marquis étranger nommé Fortunio, arrivé d'Orient à Paris. Alors, il a tout pour séduire la belle courtisane au nom de Musidora. Or, Jeanne Roc, dite Musidora, est née à Paris en 1889. Elle fut réalisatrice et surtout actrice qui se rendit célèbre au temps du cinéma muet grâce à son rôle d'Irma Vep dans la série dite des vampires, incarnant des criminels, réalisée par Louis Feuillade, ainsi que dans Judex, une autre série réalisée par Feuillade qui relate les aventures d'un justicier. Et dans ce film, elle y incarne les rôles qui lui conviennent le mieux, ceux de femme fatale. Alors, il faut dire que ses parents étaient des artistes, puisque son père, Jacques Roc, était compositeur et sa mère, Adèle Porcher, était peintre, doublée de surcroît d'une féministe. Quant à leur fille, Jeanne Roc, nous dirons qu'elle était une artiste complète, parce qu'elle touchait avec certaines facilités à tous les arts. Elle était aussi bien peintre que caricaturiste ou écrivaine. Elle chantait, dansait, et de plus, elle était belle, ce qui ne gâchait rien, bien au contraire, car c'est en s'essayant au théâtre et au music hall qu'elle fut remarquée pour sa beauté mystérieuse par ce réalisateur nommé Louis Feuillade, et c'est grâce à lui qu'elle rentra dans les studios Gaumont. Et par la suite, elle deviendra aussi la coqueluche, la muse des surréalistes, jusqu'à être surnommée la dixième muse par le poète Louis Aragon. Donc il semblerait que cette dame avait aussi quelques dispositions pour faire tourner la tête de ces messieurs. Alors elle deviendra également réalisatrice en adaptant notamment des romans de Colette, qui était l'une de ses amies, l'un intitulé « L'ingénue libertine » de 1916 et l'autre « La vagabonde » de 1917. Et après une carrière plutôt réussie, surtout en tant qu'actrice, elle partira vivre en Espagne pour les beaux yeux d'un cavalier espagnol et elle y réalisera, à ce qu'il paraît, 4 films qu'elle aurait également écrits et dans lesquels elle se donnera un rôle. Alors, 2 films, elle en réalisera quelques-uns, la plupart ont été perdus. Par contre, 3 de ses œuvres sont considérées comme majeures et celles-ci sont intitulées « Pour Don Carlos »,« Soleil et ombre » ou « La terre des taureaux ». Alors, l'épisode espagnol n'aura duré qu'un temps puisqu'elle reviendra en France et c'est pour épouser un médecin, ami d'enfance, nommé Clément Marot, dont elle aura un enfant. Alors pour la suite de sa carrière, c'est surtout le théâtre qui l'attirera. Et elle y jouera dans ses propres pièces et elle en écrira 17. Elle enseignera également la diction au Conservatoire de Reims et publiera dans la foulée 2 romans, l'un intitulé « Arabelle et Harlequin » en 1928 et l'autre intitulé « Paroxysme » en 1934, ainsi que des chansons comme celle intitulée « Mimil Mimil »,« La Pierreuse », plus des poésies. Et il y aura un recueil publié en 1940 intitulé « Auréole ». Et dès 1944, elle participera aux côtés d'un collectionneur passionné de cinéma, nommé Henri Langlois, à la création de la Cinémathèque française, où une bonne partie de ses films et archives seront déposés. Et après cette existence bien productive, elle décédera en 1957 à l'âge de 68 ans. Alors en 2013, un film documentaire est sorti sur elle, d'une durée d'1h50, réalisé par Patrick Casal. Ses chansons ont été reprises par un duo intitulé Bal Tragique, dont l'interprète féminine nommée Marie-Claude Cherki n'est autre que la petite nièce de Musidora. Bon, inutile de vous dire que j'ai essayé de retrouver ces chansons, mais mes outils ne m'ont pas donné cette opportunité. Par contre, j'ai réussi à avoir sa voix, où elle relate sa vie d'artiste, grâce à TV5 Monde, dans une série intitulée « Les voix du siècle ». Et donc ici, Musidora, dans mémoire d'une vampe, et je vous propose de l'écouter.
Louis Feuillade, le créateur du film à épisodes. Vous rappelez-vous, ceux qui ont plus de 30 ans, que haletant vous attendiez la suite à la semaine prochaine. Époque merveilleuse, dynamique avant l'heure. Et quels bandits voyait-on, aux mains de jolis garçons sans scrupules, que de noires actions j'ai dû commettre avec un maillot de soie moins noir et laissant transparaître un corps de 20 ans bien roulé, si j'en juge par quelques séquences qui ont passé au crible des années. Le film s'appelait « Les vampires », 12 épisodes, 12 000 mètres. L'auteur était le metteur en scène, Louis Feuillade, Georges Merce écrivait le feuilleton, Taillandier éditait en tranches, la tête coupée, la bague qui tue, le cryptogramme rouge, le spectre, l'évasion du mort, les yeux qui fascinent, Satanas, le maître de la foudre, l'homme des poisons, les noces sanglantes. Le travail qu'on me demandait était fort simple. J'étais la vampe, première vampe du monde, sous le titre d'Irma Vep, anagramme de vampire. Je n'avais qu'à me laisser tomber d'un toit du 8e étage sur le trottoir une corde à la taille, passer sous un véritable train pourvu de 45 wagons pour le moins, tomber dans une trappe de 2 mètres de haut, bien certainement sur un matelas, recevoir un coup de pistolet chargé à blanc, mais qui blessait néanmoins, sauter d'une auto en marche et me faire écraser sur l'asphalte par une énorme Peugeot, bras et jambes ficelés et sans défense. Tout cela, dirigé par la voix encourageante de Feuillade, teintée d'un léger accent du midi pour me faire croire que c'était une blague, sans doute une galéjade. On risquait sa vie tous les jours, mais on s'amusait. Et on la gagnait, cette vie. Quel prix elle prenait à nos yeux. Oui, j'ai bien fait partie de la belle époque.
Que nous sommes en France, restons-y un moment car je vois venir vers nous une réalisatrice française née également fin du 19e siècle et qui a percé dans le milieu du cinéma en y laissant une empreinte notable, même si elle a été rayée de la carte, si je puis dire, et est tombée dans l'oubli. Il s'agit de Germaine Dulac, née Charlotte Elisabeth Germaine Cécé Schneider en 1882 à Amiens, dans une famille bourgeoise, aux valeurs militaires et traditionnelles, car en effet son père était général et son oncle conseiller d'État. Mais elle va vite se rebeller contre son milieu, au cadre peut-être un peu trop rigide et étouffant, surtout pour les femmes. Bon, apparemment elle est dotée d'une personnalité plutôt forte, car elle se permettra d'afficher ses idées féministes et de faire comme les hommes, c'est-à-dire d'afficher peut-être un peu haut et fort ses opinions sur la société, sur la politique, ses prises de position. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette rébellion transparaîtra plus tard dans ses films. De plus, et malgré qu'elle ait convolé avec un monsieur Albert Dulac, dont elle se séparera en 1920, elle assumera son homosexualité et apparemment n'en fera pas un sujet tabou. Et c'est en tant que journaliste qu'elle débutera dans la vie en 1906 en écrivant des articles justement pour un journal féministe intitulé La Française. Et finalement, elle s'intéressera au cinéma en 1912 grâce aux beaux yeux d'une actrice nommée Stasia Nanierkowska. Alors comme je vous l'ai dit, ces films lui ressemblent, mais ressemblent aussi à la plupart de ces femmes qui veulent être libres avec leur corps, dans leur façon de vivre, dans leur expression, et afficher comme les hommes leurs idées, leurs points de vue, leurs goûts, leurs répulsions, etc. Et qu'on en tienne compte. Alors l'un de ces films, qui paraît-il est remarquable dans ce sens, car il révélerait cette volonté féminine de montrer les états d'âme et des avis, notamment en manière de vie maritale, conjugale, s'intitule « La souriante Madame Bedée », réalisé en 1923. Une Madame Bedée qui n'était peut-être pas aussi souriante que la société aurait bien voulu le voir chez une femme mariée, car la dite Madame Bedée semblait porter un regard plutôt réprobateur sur son mari et sur les rapports qu'elle entretenait avec lui. Alors elle aurait ainsi créé entre 1917 et 1935 une trentaine de fictions, des longs et des courts-métrages, et aussi des documentaires concernant certains aspects de la réalité quotidienne. Alors avec son film, une fiction intitulée « La coquille et le clerc Guiman », tournée en 1928, eh bien j'ai lu que c'est elle et non pas Buñuel qui aurait réalisé le premier film surréaliste. Alors il a été réalisé sur un scénario du poète-écrivain Antonin Artaud, et elle le réalisera justement un an avant que Luis Buñuel ne produise son Chien andalou, connu par tous les cinéphiles, et même par les autres d'ailleurs. Donc, elle a aussi cette réputation d'être une réalisatrice moderne, nous dirons avant-gardiste. Alors, d'après ce que j'ai lu et vu en cherchant ses productions, elle était remarquable par sa façon de construire les images. Elle s'imposait comme quelqu'un de plutôt novateur, avant-gardiste sous des aspects esthétiques. Alors j'ai vu écouter sur internet un court-métrage qui est dit expérimental dans le sens où il est innovant, apporte une modernité. Alors dans celui intitulé Disque 957, réalisé en 1928, on parle d'impression visuelle. Et en cela, elle est décrite un peu comme une impressionniste. En tout cas, j'ai lu que Germaine Dulac avait cherché allier l'esthétique à la musique pour proposer une composition tout à fait personnelle et novatrice. Alors la musique qu'elle avait choisie, c'était les préludes de Chopin, et vous pouvez d'ailleurs découvrir ce que je viens de vous dire sur YouTube à Disque 957. Alors c'est dire aussi qu'elle était une théoricienne du cinéma, puisqu'elle produira des ouvrages sur le sujet et organisera bon nombre de conférences. Et deux ouvrages sont répertoriés. L'un réunit divers textes écrits par Germaine Dulac. Il s'intitule « Écrits sur le cinéma », qui sont des textes réunis par un monsieur nommé Prosper Hilleré aux éditions Paris Expérimental de 1994. Et l'autre s'intitule « Qu'est-ce que le cinéma ?» des éditions Lightcon de 2020. Et de plus, il semblerait qu'elle croyait au rôle éducatif du cinéma qui pour elle était un art à prendre au sérieux dans le sens de l'éducation. En tout cas, elle a participé à développer les ciné-clubs. Alors elle était réalisatrice, d'accord, mais également productrice et scénariste. Ce qui fait qu'elle montra sa société de production en 1916 en collaboration avec une autre femme scénariste et écrivaine nommée Irène Hillel Erlanger. Et cette société portera le nom de DH Film. Alors, j'ai également cherché des informations sur Irène Hillel Erlanger. Il semblerait qu'elle soit décédée en 1920. Donc, elle était née fin du 19e siècle, en 1878. Celle-ci était une femme de lettres qui côtoyait les poètes et notamment les surréalistes. Donc, elle était poète elle-même, faisait salon et a écrit notamment un ouvrage intitulé Voyage en kaléidoscope, qui, je crois, a été publié sous son pseudonyme, ambigu quant au sexe, de Claude Lauré. En tout cas, elle a écrit des scénarios pour Germaine Dulac. Alors, pour en revenir à cette dernière, c'est dans les années 30 qu'elle cessera ses activités cinématographiques au moment où apparaîtra Le Parlant. Et elle deviendra, à partir de 1933, la directrice adjointe des actualités Gaumont pour présenter les actualités de l'époque sous forme de courts-métrages diffusés avant le film. Et c'est en 1942, après une belle carrière constructive où elle aura collé à la réalité et aux exigences de son époque, qu'elle décédera assez jeune, à l'âge de 59 ans, et sera oubliée malgré ses apports évidents. Alors elle laisse quand même une empreinte forte avec ses films, ses écrits et son travail de diffusion et de communication, et des biographies sur elle verront quand même le jour. Alors, la compagne de Germaine Dulac était également une réalisatrice et se nommait Marie-Anne Colson-Malville. Elle était née en 1892 et en dehors de sa collaboration à la réalisation avec Germaine Dulac, elle s'est surtout spécialisée sur les documentaires et notamment sur ceux qui présentaient l'Algérie au moment de la colonisation. Donc, encore une femme qui met ici son travail de réalisatrice au service de l'information du public. Et ces deux femmes resteront en couple une vingtaine d'années jusqu'au décès de Germaine Dulac en 1942. Alors, des femmes qui s'essayent à la réalisation, il y en a eu d'autres, hein, encore en France, en ce début du XXe siècle, même si elles n'ont réalisé qu'un film, comme par exemple Renée Carle, de son vrai nom Renée Henriette Émilie Grolot, qui est née en 1875. Celle-ci fut surtout une actrice du muet et qui a à son actif une impressionnante filmographie en court-métrage, notamment avec le réalisateur Louis Feuillade, que vous connaissez maintenant grâce à Musidora. Et son film, réalisé en 1921, s'intitulait « Un cri dans l'abîme », film dans lequel elle joua également et sur lequel je ne peux vous en dire davantage. Alors, une romancière également, née en 1878, qui sous le pseudonyme de Juliette Bruneau-Ruby, de son vrai nom Juliette Henriette-Marie Leclerc, s'essaya à la réalisation de deux films, car le troisième n'aboutira pas, et elle retournera à son écriture de roman. Et ces deux films s'intitulaient « La cabane de l'amour » de 1924 et « La bonne hôtesse » de 1927. Alors, toujours en France, j'ai encore trouvé une réalisatrice, dialoguiste et scénariste française, née en 1907, qui embrassera une longue carrière de 1930 à 1960 avec une filmographie assez importante, plutôt des comédies, surtout dans les années 50. Elle tournera avec les réalisateurs et comédiens les plus connus de ses époques. Par exemple, elle a été scénariste, entre beaucoup d'autres, d'un film intitulé « L'honorable Catherine » du réalisateur Marcel L'Herbier, où ont joué Edwige Feuillère, Denise Gray, Raymond Rouleau, les têtes d'affiche de l'époque. De ses films, je citerai « La vagabonde », d'un roman de Colette où elle fut à la fois réalisatrice et scénariste. Un autre de ses films s'intitule « Königsmarck », tourné en 1951. Alors, il s'agit aussi d'un long métrage avec comme acteurs connus de l'époque Jean-Pierre Aumont, René Faure. Alors, ce sont des comédiens qui sont vraiment en vogue à l'époque. Alors, elle se fait appeler Solange Térac ou bien Solange Bussy. Mais son vrai nom, c'est Solange Hélène Tissot. Mais malgré son implication et sa présence au sein du cinéma, son nom n'a pas eu une résonance significative. Alors restons en France, hein, puisqu'une autre réalisatrice française nous attend. Il s'agit de Jacqueline Audry, qui elle est née en 1908. Elle entrera dans le milieu du cinéma vers la fin des années 30 en tant qu'assistante réalisatrice auprès de réalisateurs comme le français Jean Delannoy ou l'allemand Max Ophüls, hein, pour les plus connus. Elle était la sœur d'une écrivaine proche de Simone de Beauvoir nommée Colette Audry. Celle-ci était une militante, syndicaliste, socialiste et féministe, fut une résistante pendant la guerre, bref, c'était une lutteuse, apparemment une guerrière, qui commença cependant sa vie en faisant de brillantes études à l'école normale supérieure de Sèvres, fut agrégée de lettres et la poursuivit globalement dans le militantisme en participant, avec l'aide de sa plume, à défendre ses idées et à porter ses revendications sur le devant de la scène. Alors celle-ci collabora également avec sa sœur en tant que dialoguiste. D'autres scénarios seront écrits par le mari de Jacqueline Audry, le scénariste journaliste Pierre Laroche, lequel avait participé avec Jacques Prévert à écrire le scénario du film bien connu de Marcel Carmé intitulé « Les visiteurs du soir ». Et pour en revenir à Jacqueline Audry, elle adaptera au cinéma plusieurs romans de Colette entre 1949 et 1956, comme Gigi ou L'ingénue libertine. Alors je remarque au passage que Colette était souvent mise en scène par les cinéastes femmes. Alors son premier court-métrage, réalisé en 1943, s'intitule « Les chevaux du Vercors » et son premier long-métrage, réalisé en 1945, sera une adaptation des Malheurs de Sophie. Le roman de la femme de lettres du début du XIXe siècle, Sophie Rostropchine, dite la comtesse de Ségur. Et elle adaptera même au cinéma Huis clos de Jean-Paul Sartre. Alors elle réalisera également un film qui créera quelques remous au sein du milieu, car elle adaptera à l'écran un roman de Dorothy Bussy, un film qui traite de relations entre femmes, celles-ci évoluant en vase clos dans un monde sans hommes, puisque les scènes se déroulent dans un pensionnat pour jeunes filles, où des femmes vivent en couple lesbien et où des jeunes filles, derrière leurs images bien sages, s'éveillent à la vie. Bon, apparemment, et d'après ce que j'ai vu, puisque je n'ai pas vu le film en entier, bon, je ne me prononcerai donc pas à 100% sur son contenu, mais il me semble que le film suggère plus qu'il ne montre. Par contre, c'est vrai que l'émotion et les sentiments de ces dames et demoiselles sont palpables. Bon, à noter quand même que la directrice était interprétée par Edwige Feuillère, la comédienne en vogue de l'époque. Alors Jacqueline Audry s'inspirera aussi d'une pièce intitulée « Soledad », écrite en 1956 par sa sœur Colette Audry, pour réaliser en 1967 son film intitulé « Fruits amers », ce qui lui vaudra le Grand Prix du cinéma français. Donc il s'agit d'un film plutôt politique, où il est question de conspiration, de trahison, d'emprisonnement au sein d'un petit état dictatorial d'Amérique du Sud. Bon, à noter quand même que l'un des comédiens à y jouer fut l'excellent Laurent Terzieff. Et elle aura à son actif une vingtaine de films, dont 16 longs-métrages. Alors j'en citerai d'autres, comme Sombre dimanche, réalisé en 1948, un drame qui lie un musicien à sa composition, intitulée comme le film Sombre dimanche, L'école des cocottes de 1958, une comédie apparemment plutôt légère, cette fois, avec Bernard Blier, Fernand Gravé, Danny Robin. Bon, à chaque fois, je constate que ce sont des acteurs, comédiennes, comédiens, qui deviendront ce que l'on appelle des pointures dans leur spécialité. Et un documentaire de l'historien du cinéma nommé Didier Rod-Bettoni est passé, je crois, en septembre 2020, sur les ondes de France Culture. Bon, celui-ci, d'après ce que j'ai lu, s'insurgeait contre le traitement qui a été fait à cette femme, bon, comme à d'autres hein, d'ailleurs, car elle a été volontairement gommée par ses confrères du Cénacle, qui lui ont reproché implicitement de mettre en scène des femmes comme elle, indépendantes, loin des clichés habituels de la poupée décorative ou de la femme fatale, appréciée par la gente masculine. Et apparemment, Jacqueline Audry aurait contrarié les misogynes en place, qui l'auraient punie par un renvoi aux oubliettes. Alors, il est vrai que je ne me souviens pas d'avoir vu de film de Jacqueline Audry, à part quelques extraits que j'ai grappillés, on va dire, où j'ai pu. Donc, je ne donnerai aucun avis personnel sur son travail. Mais je note quand même que des spécialistes du cinéma soulignent ses talents de réalisatrice. Et il faut dire également que ce n'est qu'en 1963 qu'une femme eut l'insigne honneur d'être jury au Festival de Cannes. Et cette femme, c'était Jacqueline Audry. Et bien voilà pour ces Françaises qui ont évolué au sein du 7e art. Vous pouvez constater qu'elles étaient bien présentes et actives, et pour la plupart talentueuses. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour faire d'autres rencontres de femmes qui ont participé à l'avènement du cinéma. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. En attendant, je vous remercie de votre écoute de La Voix des Arts.
La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.